18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM pour une nouvelle semaine. On est le lundi 27 mai, c'est Time Sport comme chaque soir de 18h à 19h. L'actualité sport avec le Grand Prix de Monaco et la fin de la Ligue 1 Conforama. Avec vous, chers auditrices, chers auditeurs, ce soir on accueillera Jamel Hachlit, fondateur de l'association FAST. Restez tout de même bien connectés tout au long de cette émission avec le 01 53 48 3000 et le hashtag TamSport sur la Twittosphère pour réagir avec vos consultants. Au menu de cette émission, on aura au menu avec l'André Villas-Boas, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ça brûle du côté de la Canebière, pourquoi pas. L'Atalanta Bergame et l'Inter National des Milan en Ligue des Champions du côté du Calcio. À Lyon, Juninho arrive plus rapidement que prévu. Enfin, on terminera avec le Grand Prix de F1 avec la victoire de Lewis Hamilton qui s'impose devant Sébastien Vettel. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et autour de la table pour m'accompagner dans ce plateau, on aura Mehdi Hadjadj, mais aussi Nicolas Vidal, le retour du Québécois.
Ouais, salut à toutes et à tous. Pour cette nouvelle émission, j'étais impatient dans l'avion de revenir sur ce plateau.
Ouais. Et là, c'est chaud, hein, Hugo, on a pu le comprendre. Comment ça va, Hugo, notre Yankees de ce soir, le réalisateur?
Eh ben, écoute, super.
Une nouvelle semaine qui commence.
J'espère que ça va aller.
Ouais, on verra. Avec le Paris Sportif aussi.
Exact.
On va dire, hein. On va rester tout doux, hein, en ce début de semaine. Notre coach Tollé est de la partie ce soir. Comment ça va, coach?
Ça va impeccable, Bilou. Salut tout le monde, auditeurs, auditrices.
Et aussi Vivien Boyebanga. Comment ça va, Vivien? Ça fait fort longtemps. Et il a raté les deux grands rendez-vous de la semaine dernière.
Ça va.
Les Avévotions. Et aussi Georges Eddy.
Ça va bien, et toi, Bilal?
Ça va très, très bien. On t'a pas vu. J'ai dû être dégoûté.
Eh oui, c'est dommage, mais les copains ont fait le boulot, donc c'était super en tout cas.
Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, on prend le chemin de la cité phocéenne avec vous, chers auditeurs.
Time Sport, le ras-le-bol.
André Villas-Boas, entraîneur de l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça brûle. L'entraîneur portugais actuellement à Monaco, dans la principauté, devrait y rencontrer les dirigeants marseillais mardi ou mercredi. André Villas-Boas, 41 ans, n'a jamais caché son goût pour les sports mécaniques, une passion depuis l'enfance. Mais cette fois, le Portugais avait au moins une autre bonne raison de faire le déplacement à la principauté, où il a assisté dimanche à la victoire de Lewis Hamilton, le British, puisque certaines fuites prêtent une entrevue avec la direction phocéenne. Comment interprétez-vous la rapidité de la révélation des prises de contact à peine la saison terminée? Le coach Tollé, on t'écoute.
Villas-Boas, ça fait quoi, deux ans, deux saisons, je crois qu'il est sans club. On pensait que c'était
le Portugais aime la Ligue 1.
On pensait qu'il allait entre guillemets exploser en tant qu'entraîneur. Donc là, visiblement, je crois que lors d'une émission, il a révélé que Marseille était un club qui l'intéressait. En même temps, ça fait deux ans qu'il s'assoit en train de regarder les matchs. J'espère qu'il a.
Ça ne l'a toujours plus. L'OM.
Comment ?
Ça le va toujours plus loin.
Il a été contacté en 2013 sous Vincent Labrune, ça ne s'était pas fait. Visiblement trop gourmand, ce coach qui avait explosé à Porto et qui a eu du mal à confirmer du côté de Tottenham, de Chelsea. Il a fait, je crois, une pige aussi
en Chine. En Chine, oui, 12 millions d'euros par an. Ouais.
Moi, honnêtement, écoute, j'en sais rien. Ça demande pas mal en plus et je sais pas. Enfin, Je ne le connais pas plus que ça, en fait. Je mets une réserve, en tout cas, sur sa venue.
Vivien, Boyebanga. Ouais,
le problème, c'est
concernant l'Olympique de Marseille, Villas-Boas.
On l'a pas vu depuis quelques saisons entraîné. Donc, est-ce que c'est le bon entraîneur pour l'OM? Effectivement, on n'a pas de données objectives. Sur ce qu'il a montré, même si effectivement à Porto, bon, qu'il était annoncé comme le spécial touf, ça, beaucoup de gens l'ont oublié depuis le temps. Là, je pense quand même que tu peux trouver mieux.
Mais il est en spécial ten maintenant, c'est spécial ten.
Voilà, ça devait être le grand successeur de Mourinho, mais depuis toutes ces années, il n'a pas montré en tout cas qu'il était peut-être au niveau pour un club du standing de l'OM.
Ouais,
c'est ça qui va être le plus dur pour lui.
Il a longtemps surfé un petit peu sur sa
carte de visite, comme ça, beaucoup de joueurs qui continuent 4-5 ans.
Les
derniers ont raté des trucs qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont jamais eu pour le coup. Moi, je vais prendre le problème de l'autre côté, à l'envers, si je peux m'exprimer ainsi. L'OM n'est quand même pas un club richissime, d'accord? On a vu cette année avec des défaillances énormes sur le terrain. Et là, si l'information est avérée, bien entendu, je parle toujours dans le flou, mais j'ai lu quelque part chez nos confrères, je crois, de France Foot, qu'ils demanderaient plus de 600 000 euros mensuels. Est-ce qu'on compte combien ça fait dans la saison, à l'année, sur les 12 mois? Et est-ce que le club, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, a besoin déjà d'un entraîneur à 600 000 euros par mois, d'une part? Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'ils investissent sur des joueurs, sur des gens qui peuvent les porter un peu plus haut que cette année? Parce qu'on ne peut pas dire que cette année, ça a été une saison particulièrement brillante pour l'Olympique de Marseille. Ça a fini un autre boudin. Certains qui s'en vont, certains qui ne savent pas s'ils partent. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'en termes de budget, je me pose vraiment la question de savoir si c'est vraiment intéressant pour un club de faire venir un entraîneur de ce Stakhlaby. D'ailleurs, on parle en plus, apparemment, Villas-Boas est extrêmement regardant sur le staff qui pourrait l'entourer. C'est-à-dire qu'il devrait venir, il pourrait imposer des joueurs avec lui. Donc, j'imagine que tout ça va coûter un peu d'argent. Et je ne suis pas persuadé que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, puisse investir massivement dans un staff technique. Encore faudrait-il
l'Olympique
avoir des
de
gens
Marseille,
qui sont un peu au foot sur le terrain.
C'est ça, Nicolas, on le rappelle de Pouch Media. L'Olympique de Marseille, qui n'est pas le Paris Saint-Germain, qui promet peut-être une enveloppe de 120 millions d'euros pour le recrutement en cette saison estivale qui s'annonce. Vivien, Marseille peut-être avec un trop grand staff et trop coûteux de Villas-Boas, et c'est pas trop bon ça pour l'OM.
Non, bah après là on donne ça donne l'impression aussi que peut-être ils veulent peut-être quoi faire un coup médiatique pour rassurer les supporters après.
Il sera fait avec
ça pour après la période Garcia, peut-être la direction veut envoyer un message fort, mais franchement,
il faut pas qu'il soit associé à un trou financier hein.
Non, mais c'est un trou financier, puis t'as pas de garantie sportive, c'est non. Ça le problème, c'est pas comme si on prenait Ancelotti ou Guardiola ou
J'espère vraiment pas qu'ils sont dans cette réflexion à se dire on prend Villas-Boas pour calmer les supporters. C'est clairement pas aujourd'hui le type de technicien à prendre. Hein. Tu parlais tout à l'heure que ça faisait un moment qu'il n'avait pas entraîné. Laurent Blanc n'est plus entraîné depuis un petit moment. Il y a quand même une cote assez importante et ça aurait pu être. Par exemple,
mais il a montré des choses avec Paris, en championnat, en Ligue des Champions.
Alors, je voudrais parler sur votre contrôle, mais je crois que le Paris Saint-Germain n'a jamais mis 600 000 euros sur un entraîneur. Je crois qu'ils sont allés avec Ancelotti à 500 000, je crois. Ouais. Et ils n'ont jamais voulu monter plus. D'ailleurs, ça leur a été pas mal reproché. La consultante Marion l'avait dit
récemment,
quelques semaines. Il y avait des entraîneurs. C'est un problème d'entraîneur, je ne le pense pas, mais peu importe. On en discutera quand elle sera sur le plateau. Je préfère discuter avec elle en direct. Mais pour revenir à ma première idée, je ne crois pas que même le PSG c'est mis une enveloppe de plus de 500 000 euros pour un entraîneur par mois. Voilà.
En tout cas, elle est d'accord avec toi. Elle nous écoute. Notre chère consultante qui est Marion Hidalgo a dit oui à fond pour Villas-Boas, le coach Tollet. On t'écoute.
Alors, si c'est lui, il y a encore une rencontre, il faut que ça se fasse, etc.
Bien sûr, ça prendra
des détails qui vont se jouer. Et puis, on sait que si ça traîne un petit peu, il y a toujours des pistes numéro 2 et autres.
Il y a Jean-Marc Furlan aussi, peut-être.
Mais pourquoi pas?
Très bon technicien, Furlan, attention.
Ouais. Faut pas se moquer. C'est pas bon. Mais il est sérieux, Nicolas.
Sérieusement, s'il revient, il a tout intérêt à réussir avec l'investissement qu'ils sont mis en place. Mais après, de toute façon, si ça réussit, on parlera plus de salaire et d'argent.
Ah ben, ça, c'est sûr. Mais comment réussir à l'OM? C'est un contexte
assez dur. Ne faudrait-il pas, excusez-moi, plus de discrétion dans ce type d'échange quand on sait qu'ils sont susceptibles de capoter pour de multiples raisons, tant que rien n'est signé, Nicolas. C'est vrai, on a vu tant de contrats, de transferts.
Il faut plus de mesures dans ce genre de choses. Il y a un club à construire, il y a le projet Champion Club qui est là depuis 3-4 ans.
Restez positif.
Que nous en avons chaque année, je crois qu'il serait nécessaire quand même de repenser l'effectif. Je l'ai dit déjà plusieurs fois sur cette antenne. Quand on va recruter 5 milieux de terrain et 14 défenseurs et qu'on ne prend pas un avant-centre, si Balotelli qui est venu 6 mois et qui, je ne sais pas, je crois qu'il n'est pas prêt ou du moins, ce n'est pas sûr qu'il reste à l'Olympique de Marseille, je crois qu'il serait quand même nécessaire que ce club-là construise déjà sur le terrain avec des joueurs. Moi, je suis toujours partisan d'aller chercher des joueurs. Je ne crois pas que Marseille, aujourd'hui, a les moyens de pouvoir jouer ou de faire bonne figure en Ligue des Champions. Mais je vais encore parler, par exemple, de Nîmes Olympique. Mais je préférerais pas en tant que supporter, mais je préférerais que l'Olympique de Marseille, de façon claire et objective, se positionne sur un joueur comme Tejis Savanier plutôt que d'aller recruter un entraîneur à 600 000 balles par mois.
On parle de lui en Espagne.
D'ailleurs, on parle de lui partout, même à Montpellier. Alors, voyez-vous.
Quand même. Eh bien. C'est pertinent, Nicolas Vidal.
Oui, mais sur le terrain, clairement, il faut que la direction se pose. Qu'est-ce qu'on va faire du mercato?
Changement d'entraîneur.
Mais en fait, c'est plus globalement.
On attend beaucoup de la direction.
C'est ça, c'est en fait, rappeler pour faire quoi, quel est le
de l'Olympique de Marseille.
Bon, on a eu le fameux OM Champions Project qui est très moqué, etc. à Paris. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait
dans toute la France, hein, même dans l'Europe, quoi. Il a été moqué, hein,
Mais quelle est la vision sur 2-3 ans
déjà, la vision, tu la poses parce que quand déjà l'Olympique de Marseille, après moi, j'aime beaucoup jouer quand Marseille se sépare de Rémi Cabella et qu'on met, on met notre ami Sanson ou le petit Lopez. Moi, c'est des garçons probablement très sympathiques, mais sur le terrain, très sincèrement, ils n'ont pas
un volume
de jeu, la technique qui permet à l'Olympique de Marseille d'aller gagner des matchs.
Fin des années 90, messieurs, vous pouvez réagir avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000. On les avait connus, ces joueurs-là. Il y avait surtout, bon, lui, un peu plus dans le temps, il y avait Raphaël Benitez, pourquoi pas, du côté de la Canebière. Et on lui dit, c'est Morad qui nous dit, et aussi, monsieur le président, Laurent Blanc. Laurent Blanc, qu'on avait connu du côté de Marseille dans les années du centenaire. Ouais. Et il avait fait, on garde de bons souvenirs de Laurent Blanc.
Oui, après, c'est des joueurs, hein, c'est leur carrière de joueur.
Bien sûr, entraîneur, ça va, c'était pas mal à Paris aussi,
il
Laurent Blanc.
Il était pas mal à Paris, il était très bon
avec Gasset.
Il était assez bon en équipe.
Oui, avec Gasset aussi.
Gasset qui est parti aussi.
Il était très bon en équipe de France aussi, avec les moyens de l'époque. Mais visiblement, il aurait repoussé les avances de l'Olympique de Marseille. Il privilégierait plutôt...
Club trop difficile à diriger, peut-être, l'Olympique de Marseille. Oui, pour Laurent Blanc, pour un nombre de messieurs tels que Raphaël Benitez aussi. Des grands noms.
C'est excitant pour un entraîneur d'entraîner à l'Olympique de Marseille.
Oui, plutôt les Sud-Américains, je vais dire.
Même si c'est, ça reste un volcan, ça reste, voilà, c'est le prestige, c'est l'un des plus grands clubs français.
Vestiaire difficile, peut-être.
Non,
Claude.
Claude, je me permets 3 secondes de t'interrompre. Ouais. On est toujours là sur la carte de visite parce que bien sûr que Marseille a plaisir de dire à jamais les premiers, et c'est vrai. Mais on peut pas dire qu'aujourd'hui Marseille a une infime chance de faire bonne figure en Ligue des Champions.
J'ai pas le contraire. Mais
c'est loin.
C'est devenu.
Marseille a plus de niveau.
C'est toujours un club qui attire l'attention. Si tu fais, même si Villas-Boas, ça fait un moment, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Ça reste quand même quelqu'un qui peut, je l'espère pour lui, s'il signe, se relancer, mais à lui vraiment de montrer de quoi il est.
En fait, ça dépend. S'il vient, ça dépend à quelles conditions, qu'est-ce qu'on lui laisse, est-ce qu'il aura vraiment les pleins pouvoirs.
Alors, et puis le budget pour recruter.
Bien sûr.
C'est toujours pareil, messieurs, c'est le budget pour recruter, c'est la marge manœuvre économique.
Et des fois, ça suit pas.
Ce qui va se faire, parce que cette année, concrètement, c'était une saison sans pour l'Olympique de Marseille, parce qu'il y avait un effectif qui était extrêmement limité.
Bon. Alors, vous faites comme Mousse, vous faites le 0-1-53-48-3000 pour réagir concernant l'Olympique de Marseille. Bonsoir Mousse, vous nous appelez depuis le Mans. Oui, bonsoir. Allô Mousse. Alors, Mousse est au téléphone, mais problème de réseau peut-être avec Mousse. Oui, allô Mousse. Allez, on va essayer de le reprendre. Oui, Mousse. Non, allez, on essaiera de le reprendre. Le coach, cette Olympique de Marseille considérée comme une étoile filante dans l'univers des coachs, on parle bien sûr de Villas-Boas, le portugais, car n'ayant pas traduit en résultats et dans son palmarès, messieurs, tous les espoirs fondés en lui, le Lusitanien peut-il être à même de relancer ce Champions Project, Vivien, aujourd'hui, au point mort?
C'est peut-être que ça peut être la bonne opportunité, malgré effectivement, peut-être que son palmarès n'a pas confirmé tous les espoirs qu'il avait en lui. Même s'il ne faut pas oublier, il y a quand même quelques titres nationaux, champions
du Portugal. Oui, au Portugal notamment. Oui.
Il ne faut pas non plus tout lui enlever.
Mais, non, bien sûr.
Mais effectivement, c'est pour l'instant mitigé, mais après, ça a lieu de créer la surprise.
Oui, enfin, en même temps, Villas-Boas, ses amis, ne va pas jouer ni avant-centre, ni milieu de terrain, ni gardien. Il va falloir voir qui est sur le terrain. C'est toujours pareil.
C'est ça. Mais c'est un peu le type de coach, tu l'attends, gros, comme les joueurs gros potentiels. À Porto, ça réussit bien, ça va à Chelsea, Tottenham. Bon, finalement, le joueur dans le grand club, ça confirme pas trop. Et là, en fin de compte, il a un tournant de sa carrière d'entraîneur. Donc après. Après, c'est lui qui a été commandé aussi sur le terrain. Hein. On entend que des joueurs qui ont été extrêmement mauvais cette année aimeraient rester.
Dans Adil Rami, par exemple.
Adil
Rami, voilà, parce que je ne crois pas que.
Oui, qu'est-ce que tu fais des cadres? Oui, mais c'est
si Adil Rami reste, Villas-Boas, il fera
rien.
Moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas une lessive.
Comment tu gères des champions du monde, par exemple?
Il n'y aura pas une lessive si importante qu'on le.
Oui, c'est ça, mais comment tu gères les champions du monde qui ont eu du mal? Mandanda, Rami, comment est-ce que tu gères?
Là,
tu
as cité les deux meilleurs.
Mais ce qui est délicat, c'est que c'est vrai que alors Rami était complètement à la cave cette année, enfin il a pas joué. Mandanda délicat. Maintenant, c'est tu peux très bien te retrouver, et des cas de figure, tu en as eu et tu en as tout le temps, avoir des joueurs qu'on n'attendait plus se relancer aussi.
Parce Rami, ça lui est déjà arrivé, en plus, c'est vrai qu'il y a quelques.
Même Rami. Ça dit, à un moment donné, ça va lui arriver, parce que le garçon commence à taper un peu, et c'est l'Olympique des fins de carrière après, hein, c'est l'Olympique de Marseille. Hein,
Tant de choses à dire sur l'Olympique de Marseille, ça fait jaser Marseille. Ouais, coach.
C'est Marseille, hein, qu'est-ce que tu veux.
Et oui, justement, il arrive à peine, il a eu un petit peu de retard, il était sur le périphérique, comme vous, vous pouvez nous écouter sur l'antenne de Beurre FM, on vous donne la fréquence sur Paris et sa région parisienne, c'est le 106.7, mais aussi on nous écoute du côté de Creil au 88.0 sur la FM, la ville de Carcassonne aussi, dans le sud-ouest, le 107.3, c'est Mehdi Hadjadj qui nous a rejoint. Comment ça va, Mehdi?
Ça va, Bilal?
Marseille.
Salut tout le monde.
Eh oui, ça fait ton parler, Marseille.
Villas-Boas.
Eh oui.
C'est incroyable.
À Marseille, qu'en penses-tu?
Beaucoup d'argent,
ouais, pour rien.
Ouais, je pense qu'ils devraient les mettre dans des joueurs plutôt que dans le salaire.
Il est d'accord, peut-être avec.
J'étais avec vous dans
avec Nicolas, justement. Ouais, mais les choix marseillais sont quand même à prendre à vraiment avec des pincettes, parce que voilà, on a vu certains choix avec certains montants de transfert de salaire non pas ouais un peu exorbitant quoi, si je peux me permettre.
Oui, bon, par rapport à Balotelli, c'était sympa, hein, ils ont mis de l'oseille aussi pour le prêt, machin, tout ça.
Bon, Balotelli, ça se comprend, on va dire.
Ça a porté ses fruits, mais sur un joueur, je veux bien, mais sur un coach, il y a des bons coachs qui sont disponibles, qui ne coûtent pas aussi cher, je suppose. Et c'est dommage. Bon, après, quoi qu'il en soit, Rudy Garcia part, et ça, c'est une bonne nouvelle.
Ah, et pour toi?
Voilà, ça peut pas être pire, je pense.
Gabi Enze ou Villas-Boas pour toi? S'il fallait choisir.
Ah, moi, je suis aussi parisien, donc forcément, je t'aurais dit Gabi Enze à choisir. Mais bon, Gabi Enze, il n'a pas d'expérience encore.
Ouais, mais c'est l'épopée.
Il a entraîné à Porto.
C'est l'épopée des New Wales Boys 92 avec la fameuse tendance Marcelo Bielsa, Pochettino, Gabi Enze.
Ce qu'il dit en Argentine, il se rapproche un petit peu.
Ou encore,
je dirais, ça coûte moins cher.
Ouais.
C'est Renato Civelli, ancien Marseillais, notamment niçois, qui disait qu'il avait.
C'est pas mal, Renato.
Qu'il avait le profil.
Le championnat français.
Encore même devant Gallardo pour s'imposer tout de suite sur la scène, sur un banc européen.
Nicolas, avant de terminer, sur Marseille.
Pour conclure, il faut que Marseille monte une équipe qui tient un peu la route, voilà, parce qu'avec Adil Rami et notre ami Mandanda ou d'autres derrière, je ne parle même plus de Rolando parce qu'il a disparu.
Il est parti.
C'est heureux pour Marseille, pour le coup.
Il est parti, Rolando.
Mais une nouvelle fois, moi, je continue à penser qu'il va falloir monter une équipe et qu'il faut un entraîneur qui a toujours une part de formation, de formateur derrière, de manière déjà à pouvoir faire venir des joueurs, être malin dans le recrutement et aussi avoir toujours un regard sur les équipes réserves. Merci,
Nicolas. Vous restez avec nous, avec vos consultants. On revient de suite avec l'invité de ce soir, Djamel Akhlit.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et donc, toujours sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de vos consultants Nicolas Vidal, le coach Tolé, Vivien Boyebanga et Mehdi Hadjadj, sans oublier notre Hugo Délire à la réalisation, mais aussi le coordinateur de cette émission, Jouba Weshen, Yasmina, la community manager avec Vanik et notre graphiste Soukaina. Un petit clin d'œil aussi à la rédaction chef, en la personne de Mamadou Lamine Mané. On nous écoute aussi du côté de Bastia avec Hanouche, sans oublier Stéphane et toutes les belles-mères. Voilà, c'est Mourad qui nous envoie cette dédicace, notamment pour Mimi et Selma. En tout cas, nous, on prend le chemin de l'invité de ce soir.
Time Sport.
L'invité de ce soir, Djamel Akhlit, fondateur de l'association FAST. Alors, Funboard, Algerian Speed Team. Bonsoir, Djamel, comment allez-vous?
Bah, écoutez, très bien, très très bien. On était très très contents d'être sur la radio Beurre FM.
Eh ben, nous aussi. Voilà. Vraiment, nous aussi, Djamel. Pouvez-vous nous relater l'anecdote qui explique comment, dans votre adolescence, vous étiez entré au CLJ, le centre de loisirs jeunes, de votre quartier des Hauts-de-Seine, en région francilienne, pour faire une activité de moto et être ressorti de là-bas avec une planche à voile sous le bras, Djamel?
Bah, écoutez, une histoire un petit peu comme tout le monde, hein, voilà. Je suis de parents issus de l'immigration, je suis algérien, je suis kabyle. Mes parents ont débarqué en France dans les années 70, je suis né en France. Et voilà, donc j'ai grandi dans un quartier populaire des Hauts-de-Seine, où j'ai eu l'opportunité, qui est à 5 minutes de chez moi, j'avais un étang qui était dirigé, où il y avait un centre de loisirs qui était dirigé par des agents de la police nationale, ce qu'on appelait anciennement les îlotiers. Et on nous a appris à faire des activités un peu particulières. C'est-à-dire que moi, je m'étais inscrit pour faire de la moto essentiellement.
Ouais.
Beaucoup de jeunes de quartier attirés par les sports de vitesse en deux roues. Et j'ai appris à faire de la planche à voile. Ouais, effectivement. Ouais.
Donc, en quoi
un destin.
Alors justement.
Un peu...
Oui, je vous laisse. Allez, je vous laisse terminer. Excusez-moi, Jamal.
Ouais, pas de souci. Il y a un petit peu un destin hors du commun, quoi. J'étais pas généralement prédestiné à faire ce genre de sport, surtout qu'on est de la région parisienne et qu'on est un petit jeune de quartier. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a sorti de mon quartier.
Il faut passer voilà. Outre, justement. Faut évoluer comme on le fait. Et vous le faites bien. En quoi cette anecdote a-t-elle changé votre vie, Jamal, et fait de vous, justement, celui que vous êtes aujourd'hui? On vous écoute.
Tout simplement le regard des gens, hein. c'est pas commun un petit jeune d'Afrique du Nord qui fait de la planche à voile, c'est
ouais.
plutôt des sports dédiés à des pays un peu plus anglo-saxons ou
non.
Et du coup ça m'a ouvert énormément de portes aussi, où ça a dirigé un petit peu ma vie. Aujourd'hui je vis dans le sud de la France, je suis sapeur-pompier, donc voilà. Et j'ai pour projet avec mon association de faire justement connaître ce sport au plus grand nombre,
et on l'espère.
Aider les jeunes de quartier à connaître un petit peu ces activités nautiques et sportives qui sont assez particulières. Donc j'ai eu l'énorme chance d'avoir quelqu'un de la Fédération algérienne de voile,
ouais.
qui a cru en mon projet et qui a validé le fait de nous obtenir des licences athlètes à mon ami et moi. C'est Issofiane, que je connais depuis maintenant 3 ouais. ans, et on va représenter l'Algérie sur une compétition internationale de planche à voile. On est les tout premiers Algériens sur ce type de compétition, donc c'est quelque chose d'unique. Voilà, il va y avoir les 40 meilleurs mondiaux de la discipline. Et mon ami Sofiane et moi-même.
Ah ben, ouais.
Certes. Les Algériens sur une compétition totale de planche à voile.
Mabrouk pour cela, Jamal, vraiment. Comment vous est venue l'idée de cette association? On va se pencher sur l'association FAST, Funboard Algérien Speed Team.
Sur l'association, tout simplement, parce que on s'est rendu compte qu'avec Sofiane, qu'on était très régulièrement sur des compétitions, les seuls Algériens. Mais vraiment. On arrivait, donc il y a des participants marocains, où on connaît Bouge Maguilou, qui est champion du monde de planche à voile en vague de la discipline, mais il n'y a jamais eu d'Algériens. La dernière compétition qu'on a fait avec Sofiane et moi, c'était vraiment pour ça. Donc on s'est dit, la création de cette association, elle sera bénéfique pour l'Algérie. On est un pays
en mutation. Et pourquoi pas?
On l'espère. Et on s'est dit, Pourquoi ne pas mettre les Algériens sur des podiums et voir que notre pays, notre grandissime pays, est tout à fait capable aussi de fournir des athlètes de très haut niveau dans toutes ces disciplines comme on a actuellement, et encore plus dans des disciplines comme celle-ci.
Mais bien sûr, Eber FM et l'équipe de Tam Sport sont avec vous.
Tout à fait.
Vraiment, sont avec vous de tout cœur. Jamal, on a Média Adjadj, c'est un consultant dans cette émission, une réaction. Il aimerait, parce qu'on en a beaucoup de réactions là avec les consultants.
Média. Salut Jamal, comment vas-tu?
Bah écoutez, très très bien.
Alors je t'explique,
content d'être avec vous.
Bon, moi je suis moi-même algérien, je suis breton aussi, donc je connais un peu la voile et tout ce qui s'ensuit, hein. Mais tu sais, tu signalais qu'il y avait pas beaucoup d'Algériens, qu'il y avait d'ailleurs, vous étiez les seuls Algériens, mais c'est un peu normal, c'est la Méditerranée chez nous, donc il y a pas trop de vagues aux abords de nos côtes.
Ouais, il y en a quand même, arrête.
Ouais, mais la Méditerranée,
il y a du kaiser,
elle est assez calme. Par rapport au Maroc, on sait très bien qu'au Maroc, il y a beaucoup de surfeurs, tout
ça. Oui, mais on pense que la planche à voile, c'est souvent des vagues, des rouleaux, des déferlantes. Mais il y a aussi des disciplines qu'on appelle le slalom, qu'on appelle aussi la vitesse. Et c'est vraiment des disciplines. C'est comme en moto, en fait. Hein. C'est
ouais.
la même chose. Vous avez du motocross. On pourrait faire le parallèle avec la planche à voile de vague.
C'est pas vous.
Et vous avez les circuits. Et là, c'est juste à l'autre.
Ah, c'est sur le sable, alors, en fait.
Non, c'est pas sur le sable. Vaut mieux ne pas en
faire. Parce que c'est comme ça, sur le sable.
Ouais, mais c'est pas sur le sable.
Avec des petites roulettes et des voiles et tout.
C'est pas sur le sable.
En fait, en réalité, c'est le facteur vent qui joue beaucoup.
Ouais. Pouvez-vous.
Oui, tout à fait. Mais je peux vous assurer qu'en Algérie, et ça c'est un rêve d'enfant qu'on a avec Sofiane, c'est d'aller naviguer en Algérie. Il y a des spots, des plages de planche à voile qui sont magnifiques. Et on aimerait justement, c'est ce que je propose d'en face, c'est ce que j'aimerais faire, c'est recevoir une délégation algérienne chez nous en France, et peut-être, Inch'Allah, être invité avec Sofiane, aller naviguer en Algérie et montrer notre discipline au plus grand nombre là-bas sur place.
Et on l'espère. Pouvez-vous
de cette association.
Justement, avant de terminer cette interview, pouvez-vous nous présenter le Prince of Speed, l'événement international qui ratifie des records de vitesse en voile, Jamal?
Alors, c'est une compétition qui va se dérouler sur une période ouverte de un mois, du 3 juin au 1er juillet, où en fait, les 40 meilleurs mondiaux vont être présents sur la plage. Il va y avoir une plage privatisée, exprès pour nous. Le départ se déroule comme ça. Vous avez un radar qui est la ligne de départ. Vous avez un deuxième radar à 500 mètres.
Ouais.
Et un deuxième radar aux 1000 nautiques, c'est-à-dire 1852 mètres. Et en fait, le but, c'est d'aller le plus vite possible sur 500 mètres et 1852 mètres. Donc, il y a plusieurs records mondiaux. Il y a des records français, le champion du monde est français. Et, ça va, et pour les meilleurs, vont à plus de 100 km/h.
Ah oui, c'est
donc,
pas rien.
Je vous laisse imaginer la vitesse sur l'eau, c'est assez.
Et qui voit combien de nœuds, ça?
Et toi, tu veux t'amuser avec ça, Mehdi?
Alors, ben, écoutez, moi, je peux vous dire un petit peu le record que j'ai fait hier.
Alors.
Sur une session d'entraînement, je suis monté à quasiment 40 nœuds. Ça fait à peu près 80 km/h en session d'entraînement. Voilà, avec des conditions qui étaient relativement moyennes. Donc, essayez, faites le test, roulez à 80 km/h, mettez la tête en dehors de votre voiture, bien sûr qu'il n'y a pas de voiture en face, vous verrez par vous-même.
Ne faites pas ça.
Non, ne faites pas ça dans votre voiture. C'est le sapeur-pompier qui parle. Ne le faites pas, ça.
C'est ça, Jamel Akhlit. Allez, une dernière réaction. Ouais. Allez, avec coach Tolé.
J'avais une dernière avec question Jamel. Pour Jamel. Vous êtes les seuls Africains sur les compétitions?
Excusez-moi, j'ai pas bien compris.
Est-ce que vous êtes les seuls Africains sur les compétitions?
Souvent. Malheureusement, souvent.
L'Afrique subsaharienne n'est pas représentée, malheureusement.
Non, peu malheureusement. La dernière compétition qu'on a fait avec Sofiane, c'était le défi Win sur Gruissant il y a 2 ans. Il y avait Boujma Guiloul et c'est tout.
Ça m'étonne pas parce que moi j'avais essayé de faire de la planche à voile. C'était dans le Doubs à Malbuisson. Je sais pas si vous connaissez.
La planche à voile, tu peux en faire. Hein.
Et je suis resté allongé pendant une heure. Ouais. Hop, next.
Ouais, tu viens à Marseille, moi je te fais de la planche à voile. Je vais faire, il n'y a pas de problème.
Nous, on avait 10 ans quoi. Aujourd'hui, j'en ai 40, donc j'ai 30 ans de navigation derrière moi. Alors, c'est vrai que ça fait très, très exotique. Je peux vous assurer que quand vous voyez deux Maghrébins arriver sur une plage, on nous regarde.
Vous êtes des êtres humains avant tout, Jamel.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes des êtres humains avant tout.
Il faut casser ces clichés, ces stéréotypes. Et vous êtes là, Jamel, pour le faire si bien. En tout cas, nous, l'équipe de Tamsport suivra de près, Jamel. Jamel, vraiment, cet événement international qui est le Prince of Speed, excusez-moi, avec votre association qui est FAST, on le rappelle, Fond Board Algérien Speed Team, de garder de près toutes ces infos. Et heureusement qu'il y ait des personnes comme vous. Allez-y, pour les éducacer aussi.
Si ça ne vous dérange pas.
Bien sûr, allez-y, vous avez l'antenne.
Nous avons un site internet dédié justement pour notre association, vous pouvez le trouver assez facilement sur Google. C'est FAST Algérie, vous allez trouver très facilement Fanboard Algérien Speed Team. FAST, on a aussi une page Facebook, vous nous trouvez assez facilement.
Ouais.
On a créé une petite collecte aussi pour nous aider dans cette association.
C'est super.
Voilà, vous le trouverez directement, vous trouverez les liens. Donc ça nous ferait extrêmement plaisir. On a contacté pas mal d'entreprises algériennes pour nous donner un petit soutien. On a eu quelques réponses. Malheureusement, pas de soutien de notre administration. Donc on va essayer de faire ça avec nos deniers propres. Mais un petit coup de main de la communauté algérienne et nord-africaine nous ferait le plus grand bien.
Et pourquoi pas?
Ça nous aiderait d'être soutenus par notre nation, notre patrie dans cette entreprise.
Mais bien sûr, Jamel,
en ce mois béni de Ramadan, ça serait
Inch'Allah le succès.
Et vous le faites si bien, Jamel. Voilà, c'était Monsieur Akhlit Jamel de l'association FAST, on le rappelle, Funboard Algérien Speed Team, qui est avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Pour toutes les informations, on le fera passer sur la fin de page Facebook de Tamsport et aussi sur le compte Twitter de l'émission Tamsport. Place à la Serie A.
Tamsport, la victoire.
L'Atalanta Bergame et l'Internazionale des Milanais en Ligue des Champions, le Milan AC et la Roma en Ligue Europa avec le dernier match d'un certain De Rossi. Les deux rivaux milanais ont tour à tour entrevu la Ligue des Champions dimanche lors de la 38e et dernière journée de la Serie A, le Calcio. Mais c'est bien l'Inter qui disputera la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. L'Atalanta en sera aussi de la partie, mais pas la Roma. Dans l'ordre, sur la ligne d'arrivée, sur ce classement, la Juve est première, le Napoli de Carlo Ancelotti deuxième, l'Inter troisième et quatrième, l'Atalanta, le Big Four à l'italienne est-il en pleine recomposition? On t'écoute, Nicolas.
Bah, très bien, hein, l'Atalanta, super. J'ai vu les extraits du match.
Mais cool pas, hein. C'est l'Atalanta qui est troisième et l'Inter quatrième. Désolé.
Donc oui, c'est une excellente saison pour l'Atalanta. On rappelle que l'année dernière déjà, ils avaient bien marché contre toute attente. Donc on va dire que c'est une belle confirmation pour cette équipe là, avec qui va un peu détrôner, qui va embêter, qui va titiller les grands de ce championnat de Serie A. Il y a quand même d'excellents joueurs dans ce club là, et on a Gasperini effectivement qui mène ça apparemment de main de maître. On le voit encore. Et sur ce troisième match, ça c'est typiquement le match à pression où tu dois absolument gagner pour pouvoir prétendre et conserver cette troisième place. Donc oui, c'est une excellente nouvelle, parce qu'une nouvelle fois, vous le savez, moi je suis toujours pour la modestie du football et que les petites équipes, ou du moins les équipes moins capées, moins huppées, puissent aller titiller en Ligue des Champions, jusqu'à ce que nos chères élites du football mondial nous fassent une Ligue des Champions fermée sans relégation. Donc Tant que c'est pas mis en place, espérons que l'équipe comme ça puisse continuer à rivaliser avec les grandes d'Europe dès l'année prochaine.
Ouais, on le dit, partant, le directeur sportif du Milan AC, Leonardo, dont on annonce le départ pour un incroyable retour vers la capitale parisienne, Vivien Boyebanga, ce Calcio.
Ah ben, cette année, enfin, j'ai beaucoup apprécié donc le Napoli et l'Atalanta. L'Atalanta, ils ont vraiment eu ce jeu offensif, plein de panache et... Je trouve que c'est vraiment de bon augure quand même pour la Serie A.
On dit que c'est le meilleur football italien de cette année. Hein,
ouais, c'est
spécialiste pour avoir
surtout là-bas, chose. Oui, c'est effectivement.
Zapata.
Ils ont tous été
impressionnant.
Vous avez
28 buts, je crois, non, ouais. Cette saison toute compétition.
Impressionnant. C'est ça. Et vous avez Gomez Zapata. Aussi, qui est incroyable, qui a mis je ne sais combien de passes décisives. Le mieux, je crois qu'il est argentin.
Il est argentin, c'est ça.
Qui est absolument incroyable en termes de délivrance, de caviar permanence tous les matchs. Donc, pas de grand nom qu'on connaît sur les
meilleurs
joueurs.
Nico, voilà. On reviendra de suite après avec Le Calcio encore et Juninho.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h-19h, c'est l'heure de Time Sport comme chaque jour, du lundi au vendredi, avec notre coach tollé Nicolas Vidal de Pouch Media, sans oublier aussi Vivien Boyebanga, notre spécialiste football, mais aussi le ballon orange basketball. Et Mehdi Hadjadj qui est de la partie. Magnifique coupe de cheveux, Mehdi, ça lui va bien. Allez, on rejoint Juninho.
Time Sport. Le duel.
Il est arrivé un peu plus tôt que prévu et la nouvelle est tombée, officialisée par une photo avec le président Jean-Michel Aulas à l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon et publiée sur le compte Twitter de l'Olympique Lyonnais. Amis, on est moi les supporters, justement. Juninho, sextuple champion de France avec le club rhodanien, est de retour à l'Olympique Lyonnais 10 ans après son départ comme joueur. Cette arrivée précoce, tout juste une semaine après l'épilogue du championnat de Ligue 1 Conforama, présage-t-elle d'un mercato estival ambitieux pour Jean-Michel Aulas et son club? Mehdi.
Écoute, c'est une bonne nouvelle, comme je le disais la semaine passée.
Pour la Ligue 1,
pour l'OL, pour même les autres clubs, parce que du coup, ça rapporte aussi des nouvelles choses. Et au championnat, je pense qu'on aura un peu plus dans l'équipe de Lyon, peut-être des petits joueurs qui viendront du Brésil. Faut l'espérer.
C'est sûr.
Ouais, ça va bien.
Et franchement, Juninho, en termes de personnalité dans le club, c'est quelqu'un. C'est voilà, il a prouvé. Ouais.
Signe fort.
Alors le coach.
Signe fort de la part d'OL. Juninho, c'est le joueur phare des années 2000. Cette fois champion de France.
Faut pas l'oublier.
Et là, bel exemple. Alors, faut voir après s'il va être capable d'amener sur le long terme. Il faut être patient aussi avec ça. Mais en tout cas, voilà, signe fort de la part de l'OL de faire revenir une légende.
Ouais, et Jean-Michel.
Et ça, c'est important.
Hola, a-t-il enfin le coach et aussi Nicolas effectué cette mue qui le verrait enfin déléguer une partie de son autorité, une partie de son pouvoir? On va voir Vivien et on aura après Nicolas.
Ah ben clairement, ouais. Avec Juninho, oui, on imagine qu'il sera avec un rôle beaucoup plus important qu'un Genesio, même si bien sûr il ne sera pas l'entraîneur, mais c'est un signe fort quand même qu'Ola, ça va peut-être prendre du recul. Alors je crois qu'il avait aussi quelques petits soucis de santé, de mémoire, Ola cette saison, donc... Je m'attends à ce que Juninho prenne de plus en plus d'importance dans sa hiérarchie lyonnaise ces prochaines années. Donc ça peut être que du positif, hein, clairement.
Ouais, pour le club rhodanien, ça s'annonce bien. est aussi assez fort quand même pour la concurrence, peut-être les autres rivaux du championnat de Ligue 1 Conforama, Nicolas.
Ouais, mais ce qui est bien chez Olympique Lyonnais et avec Aulas, hein, c'est que Aulas sait qu'il ne peut pas tout et Aulas s'est délégué sur le côté sportif. Voilà. Et il a su d'ailleurs, je crois que c'était Lacombe qui l'a accompagné là-dessus. Donc il a quand même su déléguer. C'est un chef d'entreprise, à mon avis, assez averti. Et cette capacité de savoir déléguer le sportif et le recrutement, par exemple, est une bonne chose. On a, d'ailleurs, on parle de la filière brésilienne. On sait que Lyon a quand même une énorme, avait du moins un très très gros réseau au Brésil pour le recrutement. Et Juninho, à mon avis, participe à cette politique où il va essayer, effectivement, Mehdi, tu l'as dit, d'avoir un joueur emblématique. Juninho à Lyon, c'est quelqu'un d'important. Ouais. En plus, pour moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Juninho. Je trouve que c'était un joueur
magnifique
remarquable.
Joueur.
Vous savez que je suis assez dur souvent avec certains joueurs ou stars.
Eh oui, on l'oublie
mais
pas.
J'ai beaucoup de sympathie. Et je trouve que c'était toujours un joueur fondamental à Lyon pendant ses 7 titres de champion de France. Et le délégué là, en tant que directeur sportif, rappelons-le, il sera directeur sportif et l'entraîneur sera Silvinho. Donc pour moi, oui, c'est un bon élément et ça montre encore que Aulas, il a sa grande gueule, il a sa façon d'être, alors, mais il sait déléguer aussi.
Écoute, au même titre qu'à l'époque avec Paul Le Guen, qui était un ancien du club aussi et qui a fait de belles choses. Je pense que quand tu as une histoire avec le club en tant que joueur, c'est beaucoup plus important. Oui, après,
c'est l'identité d'un club.
Tu es pris au sérieux quand tu es dirigeant par la suite.
Après, ce qui est important,
si on termine avec toi.
Tu rentres dans une nouvelle ère vraiment avec Juninho, avec Silvinho aussi qui arrive. Donc là, on va voir ce que va devenir le l'OL du futur. On espère en tout cas que.
Ils pourront concurrencer le PSG.
Et pourquoi pas? En tout cas, personne ne concurrence lui.
Il a complété parfaitement, Nicolas.
C'est un certain Lewis Hamilton.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, le festival de Cannes fermé. Hein, et c'est le Grand Prix de Monaco qui a vu Lewis Hamilton qui s'impose devant Sébastien Vettel. Sébastien Vettel a-t-il encore les moyens et l'espoir de bousculer cette prise en main du championnat de Formule 1 qu'impose à force du poignet Lewis Hamilton pour toi, Vivien, avec ses concurrents, ses poursuivants?
Bah alors, c'était mieux par rapport aux dernières semaines en termes de position, mais pour moi, il n'est pas encore assez rapide. Et comme disaient certains anciens pilotes de F1, certains le trouvent déjà sur le déclin et c'est ce qui est inquiétant.
On verra par la suite, en tout cas. Merci Vivien Boyebanga, Claude Tollet, Nicolas Vidal, sans oublier aussi Mehdi Hadjadj. À demain soir, 18h-19h. Bye bye.
Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.